Aujourd'hui, c'est notre troisième session de formation, oui, par webinaire, sur le renforcement de capacité des ALS de Afralo. Et aujourd'hui, nous avons comme orateur Marika Koning, Bart. Il ne nous a pas encore rejoint, mais j'espère qu'il va nous rejoindre avant la fin. Nous avons Olivier. Catherine Leblanc. Et également, nous avons aujourd'hui comme participants, nous n'avons pas encore tout le monde, mais j'espère qu'on aura plus de monde. Sans tarder, nous allons commencer. Donc la session, s'il vous plaît. On commence par le contexte. Parti, Yanni. Donc, bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui sont là. La prochaine fois, aussi, si avec nos ALS, on peut avoir plus de personnes qui participent, ce serait bien également. Yanni, tu as la parole. Sauf s'il y a des questions ou des éclaircissements avant cela. Et bienvenue à Bart.
M'entends là, Fatimata? Est-ce que tu m'entends là?
Oui, je t'entends
Fatimata,
très
tu
bien,
m'entends?
Tidiane.
Très bien.
Je
Bon,
t'entends très
donc,
bien.
merci. Bonsoir tout le monde, Tijani qui parle. Bon, je pense qu'il vaut mieux passer directement à la présentation de Marika, parce que ce qu'il faut dire, on l'avait dit pendant les deux premiers webinaires, maintenant il faut passer directement donc, à la substance. Et vous allez voir qu'à la fin de cette présentation, il y aura une présentation pour Afrado. Et j'ai proposé que ce soit Aziz, avec ta permission Fatimata, qui le fasse, les slides de, je crois, de 6 à 8. Merci.
Très bien. Merci, merci Tidiane. C'est Fatimata qui parle, donc sans plus tarder, nous accueillons Marika Koné, que nous remercions d'avance pour sa présence parmi nous et sa participation. Marika, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je suis Marika Koning. Je suis la directrice. Je suis la présidente de l'équipe du Geneso. Et donc, cette diapo que vous voyez sur l'écran est sur la structure de l'ICANN. Et c'est ce que nous allons présenter aujourd'hui dans cette présentation. Nous allons parler de l'écosystème d'ICANN, qui est en deux parties. Nous allons nous focaliser d'abord sur les organisations de soutien d'ICANN, qui sont formées par le GNSO, dont je vais vous parler, par le CCNSO, l'organisation qui soutient les noms de codes de pays. Et Bart va vous en parler. Et ensuite, on va vous parler de ALAC. Olivier va vous parler de ALAC, qui est donc un comité de conseil d'ICANN. Tout ça, vous le voyez sur l'écran. Chacune de ces organisations est responsable de différents domaines de l'ICANN. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un peut, s'il vous plaît, mettre mes diapos? Heidi ou Gisela, est-ce que vous pouvez mettre mes diapos sur l'écran pour que l'Adobe, pour que tout le monde les voit? Gisela, est-ce que vous pouvez mettre les diapos de Marika sur Adobe? Ok, ça y est. Bien. Donc, nous allons parler de
Oui, Claire, c'est Gisela, ça.
la GNSO est une organisation, donc une structure. Donc, nous allons avoir la conférence de Marika, ensuite celle de Bart, hein. Oui, c'est bon. Bien, je vous ai dit que j'allais parler donc de la GNSO. du conseil de la GNSO et qui est une des trois chambres, un des trois organes de ICANN qui est responsable donc directement en contact avec le directoire. Et donc, nous travaillons sur les noms de domaines génériques de premier niveau. Le CCNSO va être présenté par Barthes après ma présentation. Et il va se focaliser sur les domaines de noms de pays. Ensuite, il y a les organisations qui soutiennent les adresses, les ASO, qui sont responsables des politiques mondiales pour s'occuper des adresses IP. Donc, la GNSO se focalise sur les noms de domaines génériques qui incluent par exemple .com, .net, .info, .musée, etc. Et il y a aussi les domaines de premier niveau génériques qui sont des espèces de nouveaux GTLD. Donc la GNSO est formée de membres, de 21 membres du Conseil et regroupe 6 groupes de regroupements. Il y a aussi un comité de nomination qui travaille au sein d'ICANN. Cette diapo ne présente pas vraiment bien. Et ce que vous devriez voir ici, c'est la structure du conseil de la GNSO, dont je vais vous donner un peu plus de détails sur la façon dont la GNSO est organisée et comment les membres de ce conseil sont nommés. Et vous allez voir ici sur ce graphique, je voudrais m'assurer donc que vous puissiez comprendre le fonctionnement de cette organisation. Donc je dirais que la GNSO consiste en deux chambres, formées de deux chambres. Une qui est la chambre des parties contractantes, qui contient toutes les parties qui ont des contrats avec l'ICANN, comme les registres, les bureaux d'enregistrement. Tout cela va fonctionner dans la chambre des parties contractantes. Ensuite, on a la chambre des parties non contractantes qui contient les parties prenantes non commerciales et les parties prenantes, les regroupements commerciaux. Donc, on a différents regroupements, groupes d'intérêt qui vont travailler dans ces groupes de parties prenantes, non? Donc, comme je l'ai déjà dit, si nous cherchons un peu plus profond, nous voyons que certains de ces groupes de parties prenantes et commerciaux et non commerciaux, vous allez voir les parties prenantes qui sont des petites organisations qui forment les groupes de parties prenantes. Et 4 exemples ici, le groupe de parties prenantes de registre avec un groupe de candidature de GTLD, c'est un groupe d'intérêt. Les groupes de parties prenantes non commerciales, qui sont donc les regroupements non commerciaux, et tout ce qui concerne les ONG, les regroupements des ONG. Comme vous le savez, nous aimons beaucoup travailler avec des acronymes chez ICANN, donc vous allez en entendre beaucoup. Ensuite, on a le groupe des propriétés intellectuelles, le BC et les différents autres regroupements comme l'IPC. Donc chacun de ces groupes qui appartiennent au groupe de parties prenantes commerciales travaille sur le développement de différents problèmes, différentes politiques concernant le GNSO. Donc, si on regarde le processus utilisé par la GNSO pour le développement de politiques, que l'on appelle le processus de développement de politique, qu'on appelle aussi le PDP, à un niveau très élevé, il faut expliquer les différentes étapes de ce processus. On commence par les rapports en cas de problème. Ensuite, on a le début formel du processus. Ensuite, on a le groupe de travail, le groupe du public qui travaille au niveau des commentaires publics, qui est suivi par la publication d'un rapport de commentaires publics. Ensuite, on a le groupe qui va donner un rapport final. qui va être présenté au conseil pour sa considération. À ce moment-là, le directoire va adopter le rapport, va faire des recommandations qui vont être présentées pour une autre série de commentaires publics avant que le directoire le considère comme adopté ou son adoption. Ensuite, ça va passer à la phase de mise en œuvre et ensuite, ça va donner une politique à la fin de ce processus. Donc, je disais que c'était un processus de haut niveau. Chacune de ces étapes est longue et inclut au sein de la GNSO des procédures, différentes procédures telles que les statuts d'ICANN, une série d'étapes qui doivent être donc respectées pour suivre le processus et respecter toutes les étapes de ce processus. Vous pouvez aussi trouver des informations supplémentaires sur ce PDP sur le site de la GNSO. Bien, dans ce contexte, il est aussi important de mentionner le concept de politique de consensus. Le processus de développement de politique a été décrit dans la diapo précédente et requis pour mettre en place ces politiques de consensus. Donc, ce que ça signifie, c'est que ICANN, dans les accords d'ICANN, entre les registres et les bureaux d'enregistrement, on a une série de points qui font que si une politique est développée en utilisant le processus de développement de politique, les registres et les bureaux d'enregistrement doivent se conformer avec ces politiques de consensus, les respecter. Donc, les questions ici, en ce qui concerne le politique de consensus, dépendent d'accords que l'on appelle les picket fence, qui signifie que seulement ces questions qui sont à l'intérieur de ces limites peuvent être donc éligibles pour le développement de politique. Des exemples de ce type de thèmes qui sont inclus dans ces picket fence, dans ces limites, sont les spécifications techniques, les politiques liées à la sécurité et la stabilité d'Internet et les données de contact de domaine, qu'on appelle aussi le WHOIS. Donc, le résultat, au cours de ces dernières années, les politiques de consensus ont développé des questions liées aux politiques de transfert entre bureaux d'enregistrement, aux politiques de résolution de différends et aux données de WHOIS, etc. Alors, maintenant que vous avez entendu tout cela, vous voulez savoir comment vous pouvez participer à ce processus et la GNSO. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les groupes de travail de la GNSO sont ouverts à tout le monde. Le groupe de travail se réunit par téléphone une fois par semaine, de 30 à 60 minutes. On essaye de faire le plus de travail possible à travers les listes de mailing. Des fois, on a des réunions face à face au cours des réunions d'ICANN. Et donc, ce type d'engagement et de participation donne lieu ou demande pas mal de temps. Cependant, il y a aussi d'autres façons de participer, de faire entendre sa voix, par exemple en faisant des commentaires, en contribuant, en répondant à des documents qui sont présentés, qui sont postés à des demandes de contribution. Vous pouvez suivre des conversations sur la liste de mailing, qui est suivi aussi au niveau des archives. Vous avez aussi un wiki, une page wiki. Vous pouvez aussi écouter les réunions de la GNSO, puisque ces réunions sont donc transcrites et enregistrées. Une autre option pour participer aux réunions de la GNSO et à ses activités est d'explorer le groupe de parties prenantes ou le regroupement qui travaille sur les politiques à travers les mécanismes qui sont établis par ces groupes spécifiques. Et je vais vous donner une petite idée des thèmes actuellement en discussion au sein de la GNSO, qui sont des thèmes qui peuvent être développés ou qui peuvent donner lieu à différents commentaires. Par exemple, la politique de transfert inter-bureau d'enregistrement. Il y a actuellement une politique de consensus qui existe. Et nous sommes en train d'essayer d'aborder une série de problèmes et sur lesquels ICANN travaille actuellement pour être sûr que la politique travaille normalement. Il y a aussi un processus, un PDP, actuellement sur le blocage ou le verrouillage des noms de domaine qui sont sujets aux procédures du UDRP. Il y a un système de standardisation pour mieux mettre en place le blocage des noms de domaines. Il y a aussi un PDP sur le Who is EP qui aborde les questions de ce Who is, les prérequis des GTLD, des registres, etc. Il y a aussi un PDP sur la protection de du COI, de la Croix-Rouge et de différentes OGI. Il y a aussi un PDP sur les métriques et les rapports, sur les études de WHOIS, sur les données d'enregistrement et le GNSO a déclenché un processus de PDP sur la traduction et la translittération des données d'enregistrement internationalisées. Et je dirais de nouveau que c'est seulement une petite idée des projets que la GNSO a actuellement et sur lesquels nous travaillons actuellement. Si vous voulez davantage d'informations concernant l'activité de la GNSO et notre façon de travailler, vous avez ici des sites qui pourront vous intéresser, la page internet de la GNSO, d'autres sites sur lesquels vous trouverez davantage d'informations sur le processus de développement de politique, le PDP, et vous pouvez aussi trouver une série de graphiques sur ce site internet. Et si vous voulez être mise à jour sur la GNSO et la manière de souscrire ou faire des commentaires publics liés au travail de la GNSO, hein, vous avez un troisième lien que vous voyez sur cet écran. Et pour donc avoir une idée de toutes les problèmes principaux qui sont discutés actuellement dans les différentes organisations de soutien de la GNSO au sein de l'ICANN. Et voilà, j'ai conclu ma présentation. Et Heidi, est-ce que nous arrêtons ici pour les questions ou est-ce que je donne la parole à Bart et on fera les questions après? On fera les questions à la fin. Donc.
Oui.
Bart, vous avez la parole. Merci. Si vous voulez continuer.
On va
c'est
mettre
pas si merci, Marika.
En ligne en Bart, oui. Merci à Marika pendant ce temps. J'espère que vous m'entendrez. C'est Bart qui parle. Oui, on demandera aux interprètes. Bien, donc la diapo précédente. Bonjour à tous. Et bonsoir aussi, je suis Bart Boswinkel, je suis collègue de Marika et avec le secrétariat, je soutiens la CSNSO. Je suis le directeur là-bas. Comme Marika a dit, la CSNSO est une des organisations de soutien, c'est une ASO et comme vous voyez, c'est un organe qui fait partie du modèle multipartite d'ICANN. Alors c'est quoi la CSNSO? Il s'agit de l'organisation de soutien des noms de domaines de haut niveau pour les codes pays. Donc en principe, il n'y a que les organisations qui travaillent sur les domaines de haut niveau de codes pays avec les gérants de chacun des registres. C'est eux qui sont les membres de l'organisation dès qu'ils ont été approuvés. On a 137 membres en ce moment. C'est la quantité de CCTLD qu'on a. Et les CCTLD sont les domaines de haut niveau, comme j'ai dit. Je sais que l'on parle ici de nombres et de chiffres qui vous épatent un peu parce qu'on est très nombreux. Et AFNIC, par exemple, l'organisation qui gère .fr, a 7 CCTLD, mais c'est le seul membre. Donc on est 137 membres. Puis la CCNSO aussi a un conseil. C'est un conseil formé par 18 conseillers. Donc on a 3 par région d'ICANN et il y en a d'autres 3 qui sont nominés par le comité de nomination. Et on a un président et 2 vice-présidents. et le secrétariat de la CCNSO aussi. Donc si on revient aux membres, on a 137 membres. Comme j'ai dit, vous voyez ici la distribution des membres selon les régions géographiques d'ICANN. Donc pour l'Afrique, en ce moment, nous avons 29 membres sur, je pense, 40, il doit y avoir. Voilà la croissance de la quantité de membres de la CCNSO. Comme j'ai dit, le conseil de la CCNSO est formé par 3 représentants des 5 régions d'ICANN et 3 qui sont nominés par le NOMCOM. On a des organisations régionales de CCTLD qui sont des observateurs, on en a 4, et 2 liaisons, l'une d'Adlarge, et notre, c'est notre liaison d'échange avec Adlarge, et l'autre de la CNSO, et on a donc une liaison qui fait des échanges avec la CNSO. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez la CNSO? Comme Marika a dit, la CNSO s'occupe pour la plupart du monde du développement de politique, et la CCNSO, comme vous verrez, est en principe partie du processus de développement de politique, mais notre travail ou notre portée est très limitée et on échange des PDP avec les processus donc de développement de politique avec la CCNSO. On a une plateforme pour échanger ces informations et pour faire nos réseaux et nos communications, et on représente les intérêts de la communauté CCTLD auprès des directeurs d'ICANN. Donc on travaille aussi sur le développement de politique et du travail lié aux politiques. Voilà la portée générale du travail de la CCNSO. Et qu'est-ce que fait le conseil de la CCNSO? On a 2 composants de la CCNSO. D'une part, on a un rôle administratif et un rôle de représentation. Donc on gère les processus de la CCNSO. Et on agit comme point de contact pour les liaisons avec les autres organisations de soutien et les autres comités consultatifs. On ne représente pas l'organisation dans les CCTLD ou auprès des membres de CCTLD. Cela est permis par les membres. Alors, qu'est-ce que font les membres? En fait, ils ont 2 rôles. D'une part, ils élisent le conseil de la CCNSO et sélectionnent les 2 membres du directeur d'ICANN. Ils ont un vote final dans les recommandations de développement de politique de la CCNSO. C'est le processus qu'on suit. Et si c'était nécessaire, ils auraient un vote final sur les résolutions du conseil. On dit que le conseil n'a que la participation de la communauté, mais en fait, le pouvoir repose sur les membres de la CCNSO. Qu'est-ce que font aussi les membres? Donc, leur deuxième rôle, c'est un rôle de membre actif, c'est le fait de participer au groupe de travail. Certains des rôles sont ici sur la liste, mais on en a d'autres. Donc on a un groupe de travail du cadre d'interprétation, c'est l'interprétation des politiques et la délégation et la redélégation des noms de domaine de code pays. Puis on a un groupe de travail de planification opérationnelle et stratégique qui passe ses commentaires au processus stratégique et opérationnel d'ICANN. On a un groupe de travail de finance, c'est ceux qui font des contributions au domaine de niveau supérieur de code pays à ICANN. On a un groupe de travail des PDP pour les IDM, on en a 2. Et puis on a un groupe d'études sur l'utilisation des noms de pays et des territoires qui vient de préparer un rapport final en version préliminaire, qui est une intégration des membres d'Adlarge aussi. Et les membres suggèrent aussi des sujets pour chaque réunion. Et donc, comment est-ce que la CCNSO organise ses activités? En premier lieu, le conseil de la CCNSO organise des réunions en face à face lors des réunions d'ICANN et ils maintiennent aussi des appels en conférence. On a aussi des réunions de la CCNSO. Ce sont des événements de 2 journées où on traite, où on aborde une diversité de sujets avec plein de présentateurs. On s'organise en panel. Mais on a aussi des personnes qui font leur présentation ou alors on organise des entretiens puis en troisième lieu, on a la journée de la technologie. C'est un événement d'une journée où on aborde encore une fois une diversité de sujets. C'est plus opérationnel ou plus technique comme réunion de groupes de travail. Et puis on a les réunions des groupes de travail en soi-même qui organisent donc des réunions en face à face lors des réunions d'ICANN et qui maintiennent aussi des appels en conférence. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, ce n'est pas nécessaire d'appartenir à la CCNSO ou même d'être un gérant de CCTLD. Tout le monde est invité aux derniers types, aux différents types de réunions. Et puis la dernière partie ou le dernier aspect de l'organisation du travail de la CCNSO, et c'est le plus important, est que la CCNSO travaille à partir de ou à travers des groupes de travail qui ne sont pas nécessairement directement liés au sujet qui entre dans l'intérêt de la CCNSO ou sur le parapluie de notre travail. Mais comme j'ai dit, donc on a un groupe de travail de planification opérationnelle et stratégie, c'est le SOPWG, et puis on a le travail d'interprétation aussi. Certains de ces groupes de travail sont permanents, comme le groupe de travail de planification et opérationnel et stratégique, et d'autres sont temporaires, comme le groupe de travail sur l'interprétation du cadre, le FOIWG. Ils sont formés par des bénévoles de la communauté de CCTLD, et ils incluent des personnes de toute la communauté. Comme j'ai dit, notre groupe d'études, même si ce n'est pas vraiment un groupe de travail, a la participation du GAC et de la CCNSO, et même le groupe de travail sur l'interprétation du cadre inclut aussi des participants d'at-large et du gouvernement et des comités consultatifs. La deuxième façon dont la CCNSO organise ses activités est faite à travers le processus de développement de politique qui est défini dans les statuts d'ICANN. Et c'est probablement l'une des différences principales avec la GNSO. En premier lieu, la portée de ce processus est très limitée, donc elle ne peut être utilisée que pour certains sujets très spécifiques. En deuxième lieu, vu les différents contextes de la communauté de la CCNSO, on fournit une plateforme d'information qui existe depuis que la CCNSO a été créée, et dès notre création, on n'a vu que deux processus de développement de politique. Comme Marika vous a montré, voilà une représentation de notre processus de travail. On a aussi donc une représentation du processus de développement de politique de la CCNSO qui vise à montrer la structure que l'on a. C'est une structure différente, mais on a nous aussi de différentes étapes. Et regardez la représentation graphique, vous voyez qu'il y a de différentes flèches liées. Comme j'ai dit, nos groupes d'études ont des chartes assez légères et on fournit notre conseil au conseil. Ils sont présents lors des réunions du conseil. Ils s'orientent plutôt vers la recherche. Et ça revient toujours aux membres. Finalement, la CCNSO a aussi un processus de déclaration défini. Ça pourrait être une déclaration du conseil de la CCNSO. On a une équipe de rédaction avec le conseil. Le conseil pourrait s'opposer à cette déclaration. Si c'est une déclaration plus large de la CCNSO, c'est tous les membres qui doivent voter et approuver cette déclaration. On suit un processus de consultation publique chez ICANN même ou par les autres SO et AC, et parfois même par la AITI, par IANA, pardon. Et comme j'ai dit, on a une journée de la technologie, on organise toujours les lundis, c'est ouvert à tout le monde. Les membres de la CCNSO sont toujours présents. vous pouvez voir quelles sont aussi les différentes sessions qu'ils organisent au long de la semaine. Il y a de différentes réunions, des groupes de travail. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Vous pouvez aller voir notre programme pour la réunion de Durban. Merci.
Merci beaucoup, Bart, pour cette présentation. Merci aussi à Marika. Est-ce qu'il y a des questions pour Marika et pour Bart? Très rapidement. Si tout est clair, ça va vous dire qu'on peut avancer. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, pour moi, ça a été très clair. Donc, merci beaucoup, Marika. Merci beaucoup, Abbas, pour
cette présentation.
Il y a Ovi.
Oui,
vas-y. Oui, j'ai vu. Yaovi, tu as la parole.
Merci, merci, c'est Yaovi qui parle. Je remercie Bart pour sa présentation et aussi. Mais ma question s'adresse principalement à Bart. C'est pour savoir le que je suis dans les conflits de gestion des noms de domaines de premier niveau nationaux. Donc, par exemple, quand au niveau d'un pays, il y a des conflits par rapport à la structure et qui doit gérer le nom de domaine pays, et quand ce problème se pose, quel rôle joue la CCNSO? Merci.
Je vais essayer de répéter la question pour voir si j'ai bien compris votre question, parce que j'étais un peu entrecoupée. Est-ce que nous parlons du CCPLD et des questions liées au nom de domaine de CCTLD individuel. Si c'est le cas, à ce moment-là, le rôle du CCNSO est très limité. Le CCNSO ne s'occupe pas de politique et pour tout ce qui concerne la candidature dans un pays. Cela est du ressort du CCTLD. Et la raison principale, c'est que la question de politique pour le CCNSO est très limité. Le CCNSO va établir les politiques pour l'enregistrement, etc., dans le cadre du GNSO. Le CCNSO, par définition, ne s'occupe pas de ce genre de choses. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Il y a oui qui parle. En fait, il y a des parties qui étaient coupées aussi. Je demande le rôle du CCNSO quand il y a des conflits au niveau d'un pays sur la gestion au niveau du pays. Merci.
C'est Fatimata. Merci, merci Yaovi. Peut-être que vous n'avez pas entendu la réponse, mais Marika a expliqué que le CCNSO n'intervenait pas dans la gestion au niveau du pays. D'accord? Et que c'était au CCTLD de régler les problèmes internes au pays.
Merci.
Oui, maintenant il y a Tijani qui a levé la main.
Oui, merci Fatimata. J'ai vu avant moi Olivier lever la main, mais maintenant il l'a baissé. S'il veut parler avant moi, je peux lui donner la parole. Mais s'il me permet, je voudrais dire que Yaoubi, si tu parles de la délégation et redélégation, si c'est ça ta question, bon, elle n'a pas répondu à ta question, bien sûr. Je pense que le CCNSO n'intervient pas dans ce genre de choses. Voilà.
Ok.
J'ai fini ce matin.
Merci. Merci beaucoup, Tijani. Sans plus tarder, on va passer donc à la présentation par Olivier et Tijani.
Merci beaucoup, Fatimata. C'est Olivier ici. Vous m'entendez?
Oui, Olivier.
Oui, très bien.
C'est fantastique. Ben, merci. J'avais mis ma main un peu plus tôt parce que je voulais juste féliciter les précédents présentateurs de leur présentation, car même en tant que chair de la LAC, il y a des choses que je ne sais pas et j'ai appris des choses ce soir. Donc je suis bien content d'avoir pu voir ces présentations. Je vois que sur mon Adobe, il y avait la présentation, maintenant elle a disparu. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Ça marchait très bien et c'est marqué « Upload in progress ». C'est la même chose chez vous ou est-ce qu'elle a apparu?
C'est la même chose.
Olivier, excuse-moi, c'est Gisela, ça arrive.
Ok, merci. Bon, alors je vais juste démarrer donc. Alors, en fait, la première de mes diapositives, je pense que vous devez déjà vous en rappeler, c'est la même chose que lors de mon dernier, de ma dernière intervention, lors du dernier, de l'avant-dernier séminaire qu'il y a eu pour Afralo, et c'était la structure de AtLarge, la structure organisationnelle de AtLarge. On démarre toujours par ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste pour vous rappeler que Afralo est une des 5 régions dans le monde qui s'occupe de, qui divise en fait toute la communauté at large. Et ce sont ces 5 structures qui font en sorte que le développement de la politique au niveau international est dans un certain équilibre au niveau international entre les continents, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui aient voix au chapitre. Donc ça, c'est la structure. Maintenant, je ne vais pas m'étendre sur la structure parce que, donc, comme je vous ai dit, on en a déjà traité la dernière fois. Je vais plutôt, cette fois-ci, vous parler du développement de la politique. Du nom de ce séminaire. Donc, si nous allons à la prochaine page, s'il vous plaît, vous verrez, grosso modo, comment est-ce que nous présentons, comment est-ce que nous préparons les politiques au niveau de la LAC et de AtLarge. Un des travaux principaux que la LAC doit faire, en fait, c'est de répondre aux demandes de commentaires publics qu'il y a, dont Bart et Marika vous ont parlé il y a un certain moment. Et ces demandes de commentaires, il y en a énormément. Plusieurs par mois. C'est clair que dans la constitution de ICANN, dès qu'il y a un développement de politique qui se fait, non seulement un groupe de travail travaille sur ce développement de politique, mais ensuite la communauté, toute la communauté ICANN, doit être interrogée à ce propos. Et comme la LAC, et la partie de ICANN qui avance, qui met en avant les points de vue des utilisateurs Internet, et bon, on ne les représente pas, mais dans un sens, nous demandons à nos propres communautés, posons des questions, et ensuite nous poussons ces points de vue au niveau de ICANN. La première chose que la LAC doit faire, c'est de regarder la demande qu'il y a de commentaires publics qui est publiée sur le site de l'ICANN et de voir quels sont les commentaires sur lesquels ils peuvent faire un commentaire. Quels sont les travaux sur lesquels il faut établir un commentaire. Vous avez d'ailleurs dû le voir lors des réunions à Fralo chaque mois, il y a toujours une petite partie qui parle des commentaires, des demandes de commentaires publics. Et donc, c'est l'ALAC elle-même qui peut décider, et tout membre dans Atlarge qui peut dire, ah ben voilà, quelque chose sur lequel nous devons absolument répondre. Donc, le premier pas, c'est que l'ALAC va décider si un commentaire est nécessaire ou non. Dès qu'il y a une décision que ce commentaire est nécessaire, notre staff met en place une page wiki. Et cette page wiki, donc, est tout de suite... Ah bah tiens, je vais peut-être même pouvoir utiliser ça. Est-ce que je peux utiliser ça? Ouais, je ne sais pas si ça marche. Voilà. Ici.
Super.
J'espère que ça marche chez vous. J'espère que ça marche chez vous. Alors voilà, met en place donc une page wiki, oui. Qui est donc sur le site web, et à ce moment-là, la première chose qui est à faire, c'est de pouvoir identifier quelqu'un qui va, ce qu'on appelle le pen holder en anglais, la personne qui va tenir le pinceau ou tenir le stylo pour pouvoir écrire, ou plutôt être la personne au clavier de nos jours, pour pouvoir écrire ça. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien, aucune idée de ce qui s'est passé là. Quelle catastrophe. Ok, ça redémarre. La technologie est fantastique. Avance, s'il vous plaît.
Ça revient.
Voilà, ça revient. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais voilà, il y a quelqu'un qui joue avec le...
Voilà.
Hop, voilà. On ne touche plus. Alors, donc quelqu'un va prendre un stylo et donc va être la personne qui va être en charge de ce système de commentaires publics. Immédiatement, cette personne va demander dans son entourage, il va y avoir d'ailleurs un appel à commentaires en général dans un groupe de travail, parce que souvent ce sont des groupes de travail qui traitent directement de ce qui est discuté. Et à ce moment-là, une première version du commentaire est écrite. Et cette version ensuite va être mise donc sur le wiki. Et très rapidement, le staff va envoyer sur la site Atlarge, va envoyer une demande pour que la communauté fasse des commentaires sur cette première version. Alors là, sur ce graphique, c'est marqué que c'est 5 jours. En fait, c'est 5 jours minimum. Souvent, on essaye de donner plus que 5 jours à la communauté parce que nous sommes bien au courant que la plupart des personnes, des représentants des ALS, en fait, ne sont pas des personnes qui peuvent, de temps en temps, qui peuvent donner une réponse immédiate. Beaucoup doivent demander à leur propre communauté ce qu'ils en pensent. Donc, 5 jours, c'est pas beaucoup. On fait généralement un peu plus. À ce moment-là, les commentaires sont reçus et en général, on demande à ce que les commentaires soient envoyés, mis directement sur la page wiki, en bas, en dessous de la page wiki. N'importe qui peut mettre des commentaires là-dessus, sur le texte qui est écrit au-dessus. Et une fois que ces commentaires sont ensuite incorporés avec le reste du texte, ce n'est pas encore fini, car l'ALAC doit voter. Et là, à ce moment-là, ça c'est un jour c'est un vote qui dure en général 5 jours, et c'est un vote de ratification de l'ALAC pour être absolument sûr que tous les membres du comité at large, hein, de l'ALAC lui-même, tous les membres, soit d'accord avec le texte qui a été écrit. Et seulement lorsqu'il y a une majorité de ses membres, à ce moment-là, le texte est envoyé, ou bien envoyé vers le conseil du directoire, ou bien envoyé vers le processus de commentaires publics qui est ouvert et qui recueille donc les commentaires avec une copie envers la personne, le staff de ICANN qui doit s'occuper de ce système, ou bien, dans certains cas, vers d'autres processus. Il est clair que Atlarge peut faire des commentaires sur beaucoup, beaucoup de sujets. Donc il n'y a vraiment pas de restriction, si vous voulez, à ce propos, sauf, bien sûr, que les sujets doivent toujours rentrer dans le cadre de l'ICANN. Mais il est clair que là, donc le board, donc le directoire, le staff et le système de public comment. Et ça, c'est comme ça qu'on fait, que l'on prépare en fait la politique. Depuis ici, qui est au démarrage, jusqu'à ici, en général, il y a seulement 21 jours. 21 jours, ce qui n'est pas beaucoup. Et c'est pour cela qu'on a toujours l'impression d'être un petit peu... Et je sais que
j'ai beaucoup de travail pour mon travail.
Oui, alors là...
J'ai un écho pour l'instant et ça...
Maintenant, c'est revenu, il y a Olivier, vas-y.
Je pense que ça va être pas plus. Oui, ok. Donc, voilà pour le... la chose. Allô? Ah, c'est mieux. Ok, merci. Donc ensuite, la prochaine diapositive, c'est celle sur les sur la politique. Combien est-ce qu'on a fait de statements donc dernièrement? Et on en a écrit une vingtaine à peu près. Les plus importants, c'est en 2013, étaient d'abord le RAA, c'est le contrat avec les accords d'accréditation des bureaux d'enregistrement. C'est un contrat qui devait être remis en cause et qui devait être en fait mis en forme et renouvelé. Et nous avons commenté là-dessus sur les négociations et spécialement sur le contenu du contrat. Très important, bien sûr, parce que c'est à travers ce contrat des accords d'accréditation que les bureaux d'enregistrement travaillent avec l'ICANN. Ensuite, le deuxième, c'était WHOIS, qui est en fait un service d'annuaire de données qui a donné du fil à retordre à tout le monde depuis, ben, depuis la création d'ICANN, et d'ailleurs même depuis avant la création d'ICANN. Là, il y a pas mal de travail qui s'est fait dernièrement à propos de WHOIS. Non seulement le service lui-même d'annuaire de données, mais il y a d'ailleurs un nouveau service qui est en train d'être mis en place, pas mis en place, mais qui est en train d'être étudié, c'est encore au niveau d'études, pour pouvoir remplacer le service WHOIS qui n'est plus adapté aux demandes du marché d'aujourd'hui et surtout aux changements qu'il y a eu dans Internet. Le prochain, c'est les PIC, Public Interest Commitment, c'est en fait l'engagement de l'intérêt public, c'est une partie des contrats des nouveaux GTLD, très important pour nous, la LAC, parce que, et pour At Large, parce que c'est en fait une partie complémentaire qui fait que les nouveaux noms de domaine ne vont pas amener à des utilisations frauduleuses ou des utilisations qui seront néfastes pour les utilisateurs Internet. Ensuite, les IDN, c'est les Internationalized Domain Names, les noms de domaines internationaux. Très important, bien sûr, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à très récemment, tous les noms de domaine étaient en caractère latin, donc, et maintenant, il y a des noms de domaine qui peuvent être mis en place en caractère arabe, en caractère chinois, coréen, japonais, mais bon, il y a certains problèmes, spécialement les problèmes des variantes, des mots qui peuvent signifier la même chose, mais qui peuvent être écrits de différentes façons. Et ça, c'est compliqué parce que le même mot pouvant être écrit de deux façons différentes est un mot qui risque donc d'être, utilisé peut-être à mauvais escient parce que un utilisateur pourra se faire passer pour quelqu'un d'autre en utilisant le même mot, mais dans une autre, écrit d'une autre façon. Et puis finalement, une autre politique importante, c'est la stabilité et la sécurité du réseau, du DNS, du système de nommage Internet, car s'il n'y a ni stabilité ni sécurité, cela affecte nos utilisateurs énormément. Si vous êtes intéressé par le développement de politique à la LAC, ce qui est très important, eh bien, vous avez ici la liaison vers la page web correspondante. Ensuite, on travaille avec beaucoup de groupes de travail, il y en a plus que 16. Je vais aller un peu rapidement parce que je vois que le temps tourne. On a plus de 16 working groups, ils sont ouverts à tout le monde, c'est très important. Vous pouvez être le délégué de votre ALS, ou bien vous pouvez avoir des personnes dans votre communauté, dans votre ALS, qui sont des experts ou qui s'y connaissent bien dans certaines de ces problématiques, et les groupes de travail sont prêts à recevoir tout le monde. Nous avons 16 donc groupes de travail, nous avons 5 groupes de travail qui sont régionaux et qui Regional at Large Working Groups qui sont en fait des groupes de travail pour pouvoir amener les politiques depuis les ALS jusqu'à la LAC elle-même. Voilà, je pense que c'est la politique du bas vers le haut, comme on dit. Et ici, nous avons Tijani Benjema, et je pense que ça sera la prochaine personne qui va nous parler dans un petit moment. Voilà, la prochaine diapo, c'est Afralo, et donc je passe la main à Tijani Benjema et à Aziz Hilali.
Merci, Olivier. Fatima, t'as à toi.
Merci Olivier, c'est Fatimata, vous m'entendez?
Oui.
Oui.
Merci Olivier pour cette excellente présentation, très intéressante et très riche en même temps. Sans plus tarder, on va passer la parole à Tijani pour la suite.
Merci Fatimata. Comme je l'avais écrit dans un mail et comme je l'avais proposé tout à l'heure, je préfère que ce soit Aziz qui fait cette présentation, si ça ne vous dérange pas, si vous êtes d'accord. Fatimata, si tu es d'accord.
Je suis d'accord, sans problème, c'est Fatimata. Merci beaucoup. Donc Aziz, tu as la parole pour faire la présentation. Merci.
Ben, merci à Fatimata, merci à Tijani de me donner la parole. C'est pour m'examiner, donc je vais essayer de réussir mon exposé. Alors, Afralo, comme vous le savez tous, et son rôle principal, comme vient de dire Olivier, c'est l'un des 5 at-large qui représente l'Afrique, des 5 régions. Et son rôle principal est d'informer les utilisateurs finaux, de les doter des informations et des connaissances nécessaire. Si on peut laisser quand même la première, j'ai envie de parler de cette photo, et donc qu'ils puissent participer, ces utilisateurs finaux, pour qu'ils puissent participer activement aux activités de l'ICANN et particulièrement au processus de développement des politiques pour faire entendre la voix de l'Afrique. Aujourd'hui, Afralo représente 25 atlas structures qui représente à peu près 17 pays. Et la photo que vous avez devant vous, on voit les 20 participants d'Afralo qui ont à Dakar en 2011, qui ont bénéficié d'un programme qu'on a mis en place sur le renforcement des capacités en octobre 2011 et qui a eu un grand succès auprès de nos ALS. Et qui ont, en plus de la formation qu'ils ont reçue, ils ont pu participer, puisqu'ils étaient là physiquement, à toutes les activités de la réunion publique d'ICANN de Dakar. Concernant les activités principales d'Afralo, il y a le point important dont Olivier vient de parler au niveau de la LAC, c'est la participation aux consultations publiques ouvertes pour lesquelles ALAC prépare des déclarations et dont il vient parler Olivier. Et nous essayons donc de faire le suivi par des représentants qui sont désignés par Afralo, soit qui sont tout simplement des membres particuliers qui font partie des ALS, qui sont intéressés par un sujet ou par un autre. Donc, Afralo travaille actuellement au sein de, pour s'assurer que l'Afrique soit représentée, que sa voix soit entendue, et l'ambition que nous, en tant qu'officiers de Afralo, c'est d'aider ou de sensibiliser les ALS à participer de manière régulière aux consultations publiques et à donner leur avis sur tous les problèmes qui concernent le continent africain. Deuxième activité importante qui est là sur vos transparents, c'est le programme de renforcement de capacité, c'est ce que je viens de parler au niveau qu'on a réalisé à Dakar, et cette formation a eu lieu sous forme de 6 sessions de 2 heures chacune. Ils ont eu lieu entre 7h et 9h du matin pour ceux qui étaient là. Comme suite à cette formation, nous avons essayé de faire une évaluation de cette formation auprès des participants. Ce sondage nous a permis quand même de constater qu'il y a une faible connaissance des débats concernant les problèmes traités par l'ICANN, des faibles connaissances au niveau des terminologies utilisées, au niveau des acronymes, etc., et qu'il était nécessaire de poursuivre cette formation sous la forme de sessions virtuelles pour compléter la formation. Et donc nous avons mis en place, grâce à l'aide du staff de l'ICANN, et je tiens à les remercier particulièrement de nous avoir aidés, d'avoir la gentillesse de nous avoir organisé ça, et nous sommes aujourd'hui à la troisième déjà session virtuelle que nous organisons. Et comme a dit Olivier, effectivement, même ceux qui sont depuis longtemps à l'ICANN apprennent toujours quelque chose lorsqu'il y a des gens qui parlent de leur groupe ou de leur constituante au sein de l'ICANN, parce qu'on a l'impression de connaître des choses, mais on apprend tous les jours. Et donc, nous aurons forcément l'occasion d'évaluer ces 3 webinaires que nous avons organisés, et que la dernière est aujourd'hui, et nous aurons l'occasion de l'évaluer et de voir quelle est la suite à faire pour que cette expérience soit bénéfique pour les autres RALO, pourquoi pas, et pour l'académie ICANN qu'on voudrait mettre en place. Je vois sur le transparent aussi qu'il y a tout ce qui est la tradition que fait Afralo pour chaque réunion qui a eu lieu sur une terre africaine. Et ça, c'est depuis Nairobi en 2009, l'Afralo organise une exhibition, un showcase, dans lequel on essaye d'innover à chaque fois. Et la toute dernière avait eu lieu à Dakar et a connu un grand succès, puisqu'il y a eu plus que 150 personnes qui ont participé avec de la musique, avec des interventions, avec la présence du ministre des technologies de l'information du Sénégal, des chefs de l'ICANN, de président de l'ICANN et du CEO de l'ICANN. Et en parallèle au showcase, nous essayons aussi à chaque fois que la réunion a lieu en Afrique, de faire profiter ou faire bénéficier la communauté locale de l'opportunité offerte en organisant des activités à leur profit. Et donc lors de la prochaine réunion d'Urban, nous avons décidé, ça a été très difficile, nous sommes en train d'organiser, c'est Fatou qui s'occupe de ça, je tiens à la remercier pour ça, elle est en train de préparer des activités au profit de la population locale, c'est-à-dire des gens qui proviennent des universités, des écoles et des ONG, et qui représentent d'une manière générale les utilisateurs d'Internet au niveau de l'Afrique du Sud. Et ce sont des personnes que nous allons faire venir d'un peu partout dans le pays. Et nous avons eu un appui de Google, un appui aussi de l'ICANN pour préparer ça. Et donc il y aurait le showcase et ces invités qui sont des Sud-Africains vont aussi assister aux réunions de la LAC et ils vont pouvoir nous dire ce qu'ils attendent de l'ICANN, ce qu'ils pensent, etc. Une autre tradition que nous avons, AFRALO aussi a mis en place depuis Bruxelles en 2010, c'est la réunion traditionnelle conjointe AFRALO-africaine que nous organisons en marge de chaque réunion de l'ICANN, un mercredi après-midi, et qui consiste à réunir toute la communauté africaine de l'ICANN pour débattre d'un thème que nous fixons à l'avance. Et là, je tiens aussi à rendre hommage aux membres des ALS qui participent en ligne, même s'ils ne viennent pas physiquement aux réunions de l'ICANN, qui donnent leur avis sur le thème que nous allons débattre, qui participent même à l'élaboration et à la rédaction du statement que nous soumettons par la suite, après l'avoir validé lors de la réunion conjointe qu'on soumet à l'ALAC et à l'ICANN. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons soumis 8 déclarations conjointes. Et d'ailleurs, nous avons décidé que la réunion d'Urban, et c'est suite à la demande de pas mal de collègues africains, et ils ont demandé à ce qu'on fasse le point sur toutes ces déclarations que nous avons soumises à l'ICANN pour voir où il s'en est, quel est le suivi qui a été fait, etc. Et puis, pour terminer, il y a l'IGF aussi. Nous avons jusqu'à maintenant participé à 2 ou 3, je crois, IGF, Vilnius en tant qu'Afralo et Azerbaïdjan en 2012. Et nous avons, je pense, pu parler de l'ICANN et montrer l'image, une bonne image de l'ICANN à travers ces ralos, à savoir AFRALO et APRALO. Voilà, pour terminer, nous continuons à faire des téléconférences chaque mois et nous avons, grâce quand même à la formation de Dakar, nous avons constaté qu'il y a quand même, depuis que la réunion de Dakar, une augmentation assez sensible de la participation des ALS dans ces réunions, dans ces téléconférences, dans le mailing list aussi, et qui donnent leur avis, et ça nous permet, c'est un vrai moyen de communication. Nous avons aussi mis en place, et ça c'est suite à la demande de FADE, que la page wiki dans laquelle les ALS mettent des informations sur les activités qui sont menées localement auprès de la communauté locale. Alors, nous avons aussi fait des élections. Aujourd'hui, les officiers de AFRALO, c'est la présidente Fatemata, le vice-chair Tijani, moi-même secrétaire, et nous avons Titi, Yaouvi et Tijani comme membres de l'ALAC. Et le représentant d'AFRALO Nomcam aujourd'hui, c'est Mohamed. Et ça, je pense, si vous allez maintenant à la page où il y a les élections, à partir de la semaine prochaine, il y aura l'annonce de ceux qui ont été élus au niveau de ces postes-là pour le prochain mandat. Voilà, alors pour terminer, contribuer à façonner la voix de l'Internet, si je traduis bien, grâce à différents programmes de renforcement de capacité que je viens de citer, que ce soit présentiel ou à distance, nous sentons une grande évolution, comme je viens de le dire, et donc nous cherchons, malgré un handicap, et ça je n'arrête pas de le dire chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, l'handicap de la langue, puisqu'il y a une majorité d'ALS qui souhaitent que les groupes, en tout cas les groupes de discussion où il y a des sujets importants, où il y a une présence africaine, qu'il y ait les traductions au niveau de ces langues. Et puis voilà, et pour participer au groupe de travail dont Olivier a parlé. Voilà, j'ai terminé de parler. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, on t'entend. Fatimata?
C'est Fatimata qui parle. Merci beaucoup, Aziz. Le test est passé. Si tu penses que ça a été un test, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, justement, c'est mis à l'écran déjà, est-ce qu'il y a des questions pour Olivier et Aziz?
Moi.
Tijani.
Oui. Merci, Fatimata. C'est Tijani qui parle. Je vais d'abord insister sur le fait que la consultation publique est ouverte à tout le monde, pas uniquement aux organisations. Je veux dire par là que lorsqu'il y a une consultation publique, eh bien, en tant qu'individu, en tant que Tijani, je peux faire des commentaires. En tant que FMI, Mona LS, je peux faire des commentaires en tant que FMI. Je peux faire des commentaires en tant que Afralo. Et on peut faire des commentaires en tant que ALAC. Donc, à tous les niveaux, on peut faire des commentaires. Et parfois, quand le sujet est important, je conseille mes collègues de faire les commentaires à tous les niveaux, de manière à donner plus de chance à notre point de vue de passer. Donc, ne pensez pas que le commentaire public est restreint, il ne peut pas être fait par des individus. N'importe qui peut faire des commentaires. Deuxième point, comme moyen d'outreach, comme moyen de sensibilisation, nous avons aussi fait la brochure Afralo, et que nous souhaitons mettre à jour prochainement. Aussi, Afralo avait contribué efficacement, effectivement, à la mise en place de la stratégie africaine, de la stratégie ICAN pour l'Afrique. Donc, voilà d'autres aspects des activités d'ICAN qui n'ont pas été mentionnés suffisamment. Est-ce que c'est la participation aux téléconférences? Je pense que c'est si les Africains, si les ALS africaines, si les représentants des utilisateurs finaux de l'Internet en Afrique veulent faire passer leur voix, ils doivent obligatoirement participer massivement à nos téléconférences mensuelles. C'est le minimum, vraiment minimum. Si on ne fait pas ça, c'est-à-dire que rien ne passe, c'est-à-dire que votre voix ne passe pas. Aussi, il faut aussi participer dans les consultations publiques, il faut aussi participer dans les working groups. C'est très important la participation dans les groupes de travail. Très important, cette participation, parce que c'est là où les points de vue sur la substance peuvent passer. Notre point de vue en tant qu'Africain peut passer, eh bien, c'est à travers toutes nos structures, mais aussi, c'est aussi à travers notre participation. C'est pour cela que j'insiste sur la participation, et c'est comme ça qu'on peut réellement impacter le développement d'Internet dans le futur. Je vous remercie. Fatima, à toi.
Merci Tijani pour ces éclaircissements. C'était très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y a pas de questions pour Olivier? Ça veut dire que tout est clair? Bravo Olivier, bravo Aziz et Tijani. Et encore une fois, merci à Bart qui est resté avec nous. Marika nous a quitté déjà, mais on l'a remercié. Merci beaucoup Olivier, merci à tout le monde. Et on se dit au revoir, on fera l'évaluation comme a suggéré tout à l'heure Aziz. et nous verrons quelle action entreprendre. Merci beaucoup. Ça devient bruyant chez moi. Je vais devoir arrêter. Merci pour tout et au revoir. À la prochaine. Merci,
merci
Claire
Mata,
et Camilla. Merci Sylvia.
Au revoir.
Merci
Heidi,
Gisela. Merci à tout le monde. Allez, bye bye.
Au revoir et à samedi. Hein.
Bye bye.
Ok, bye.
Bonne soirée à tous. Au revoir.
Bonsoir. Merci. Au revoir.
Merci à tous et à toutes. Thank you everyone. Nous allons maintenant déconnecter l'audio. Bonne fin de soirée. The audio will now be disconnected. Thank you. Enjoy the rest of your evening.